L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Notre histoire d'aujourd'hui débute le 5 mai 1957 à Hexham, dans le Northumberland anglais. Une petite bourgade charmante qui se dresse là depuis des siècles et qui fait partie intégrante d'un patrimoine national riche et prospère. Depuis 5 ans, la reine Elisabeth II règne sur un royaume prospère dans lequel les retombées positives de la victoire de 1945 sur l'ogre nazi se font encore ressentir. Sur les trottoirs pavés d'Hexham, 3 enfants sur le perron d'une maison de la vieille ville embrassent leurs parents. Ils vont tous les 3 à l'église. Nous sommes dimanche matin. Et s'ils partent peu de temps avant leurs parents, c'est que le prêtre leur a proposé de prendre part à l'office avec lui. C'est un privilège. Le soleil brille, les arbres qui jalonnent les rues et les parcs renaissent depuis l'apparition de ce printemps revigorant. Les oiseaux chantent et les 3 jeunes gens qui se tiennent la main courent en chantant vers la maison de Dieu. Ils n'y arriveront jamais. Le bonheur n'est jamais qu'un voile qui adoucit la réalité du monde. Sordide, froide. Nous sommes le dimanche 5 mai 1957. Il est 10h, l'heure H de mon histoire. Deux heures plus tôt, les enfants Pollock se sont réveillés, enjoués au son des appels de leur mère venant du bas des escaliers. Florence, c'est son nom, craint que les petites ne soient en retard pour leur rendez-vous de ce matin. John, le père de famille, la rassure et s'affaire dans la cuisine à préparer des pancakes au sirop d'érable. La tradition dominicale est d'autant plus importante que les 2 plus jeunes de la fratrie, Johanna et Jacqueline, respectivement 11 et 6 ans, adorent voir leur père cuisiner. Oh, elles ne sont pas les seules. 4 frères sont nés avant elles. Les Pollock sont donc une famille anglaise, somme toute classique à l'époque. John, dans la cuisine, est en bras de chemise, sa cravate à fleurs passée par-dessus son épaule, pour ne pas l'attacher. Ordre de Florence, qui en a marre de récupérer des chemises blanches qui n'ont plus rien d'immaculé. Le colonel dans cette maison, c'est elle. Tous 2 dirigent avec brio une entreprise de livraison de lait et de produits alimentaires. D'ailleurs, ils viennent d'acheter leur toute première camionnette motorisée. Avant cela, ils n'avaient que des livreurs en voiture à cheval. John est un grand admirateur de la race des Shire, ces magnifiques chevaux à la taille impressionnante qui dépassent parfois le 1,90 m. D'ailleurs, ce matin, il parle depuis 1 heure de la nécessité de vendre une partie du troupeau. Et ça, Florence n'est pas prête à l'entendre du tout. Comment ose-t-il envisager de se séparer de ses compagnons qui ont donné une partie de leur vie pour le bon fonctionnement d'une entreprise qui prospère aussi aujourd'hui grâce à leur travail? Elle ne veut pas comprendre que les chevaux, ce sont des frais fixes et que, hélas, les garder ou non est un choix purement économique. Et bien justement, Florence préfère encore rogner sur son petit confort personnel pour réussir à au moins garder 1 ou 2 de ses chevaux. Les filles adorent Vanille. Et elle ne veut pas leur briser le cœur. Alors comme souvent, Florence obtiendra gain de cause. John, dans un soupir, accepte l'éventualité de garder Vanille et même son copain Caramel. Florence n'insiste pas plus. Une victoire partielle, c'est tout de même une victoire. Et puis voilà que les filles descendent les marches 4 à 4, vêtues de leur robe du dimanche. Elles ne sont pas encore coiffées. Leur mère ronchonne tandis qu'elle s'installe autour de la grande table ronde de la cuisine. Elles jouent de leur couvert pour faire comprendre à leur vieux père qu'elles ont faim. Alors John se dépêche, pose sur la table les 2 assiettes de ses princesses. Johanna, en grande sœur modèle, découpe les pancakes de sa petite sœur de 6 ans, Jacqueline, qui n'en demandait pas tant. Aujourd'hui, Anthony, 9 ans, vient les chercher pour aller à l'église. Anthony, c'est le fils des voisins. Ils le connaissent bien. Les petites mangent pendant que leur mère les coiffe. La radio joue du Mozart, la symphonie 35, celle des jours heureux. Florence regarde l'horloge, fronce les sourcils pour voir nettement les aiguilles, parce qu'elle n'a pas ses lunettes. Alors vite, vite, Anthony sera là dans 45 minutes, faut se dépêcher. Un brossage de dents et 2 paires de lacets plus tard, voilà Johanna et Jacqueline prêtes pour l'aventure. C'est la toute première fois qu'elles sont autorisées à partir en avance à l'office dominical. Il faut dire que l'église n'est pas loin de la maison. Une petite dizaine de minutes de marche. Rien de bien insurmontable pour des fillettes aussi débrouillardes que les Pollock. John n'est pas inquiet, mais Florence, toujours un peu. Et alors que les petites jouent avec leurs poupées sur le sofa en attendant Anthony qui ne devrait plus tarder, les époux prennent un moment pour s'enlacer tendrement, jetant un œil sur les petites qui se disputent gentiment. Eux n'ont jamais eu ce défaut. Jamais un conflit important n'a émaillé l'union entre John et Florence, en plus de 15 ans de vie commune. Pourtant, dès le départ, tout ou presque les opposait. Lui est catholique. Elle est protestante. Cela ne les a pas empêchés de tomber amoureux. Ensuite, ils se sont mis d'accord sur le choix d'une congrégation qui convenait à toutes les parties. Et puis, Exham, c'est la ville du paradis. Un centre-ville des plus pittoresques, une verdure remarquable avec même des arbres fruitiers juste à côté de leur maison. Le bon vivre y est partout. Les gens se connaissent et se saluent, se rendent des services et s'aident avec de véritables bonnes intentions. À Exham, solidarité, gentillesse, attention à l'autre sont les piliers de la vie de la communauté. Ah, voilà que le petit voisin sonne maintenant à la porte, hissé sur la pointe des pieds pour atteindre la petite clochette. John lui propose d'entrer pour boire un verre de lait et manger un pancake. Anthony, le plus sérieusement du monde, regarde sa montre comme le fait son père et estime qu'il a le temps pour un deuxième petit déjeuner. Il accepte donc la proposition en tendant sa main pour serrer celle du père de famille. La grande paluche de John attrape de deux doigts celle du petit garçon et tous deux se dirigent vers la cuisine. Les fillettes, lorsqu'elles entendent Anthony arriver, se précipitent vers lui pour le saluer. Dans la manœuvre, Jacqueline se tâche avec le sirop d'érable qui se renverse sur sa jolie robe. Elle se garde bien de le dire à sa mère. De sa petite main gauche, la petite fille de 6 ans recouvre bien le méfait et sent déjà que ses doigts collent au contact du sucre qui s'est infiltré dans le tissu bleu de sa tenue. Bon, peu importe. Bientôt, elle sera dehors et cacher la tâche n'aura plus d'importance. Si le prêtre lui fait une remarque, elle dira que c'est la faute de sa sœur. Anthony, lui, avale d'une traite son verre de lait et de nouveau regarde sa toute nouvelle montre. Cette fois, il sait qu'il est temps pour la petite troupe de se rendre à l'église. Il vient juste d'apprendre à lire l'heure et, fier comme le pape, ne cesse de regarder les aiguilles qui tournent. Et ça l'effraie un peu déjà, le temps qui file. Alors il se dépêche. Ses petits mollets se mettent en action et il sort suivi de Jacqueline et Johanna. Les trois enfants qui se tiennent la main en file indienne se retrouvent dans la rue principale d'Exham. Les filles ont à peine eu le temps de faire un dernier signe de la main à leurs parents qu'elles sont prises dans le tourbillon de la course d'Anthony. Le gamin a de l'énergie à revendre. Bientôt, la petite Jacqueline, du haut de ses 6 ans, commence à perdre le rythme. Ça se l'encourage. Voilà qu'ils traversent une première fois un passage clouté. Ils sont juste au bout de la rue et Florence et John les regardent s'éloigner avec émotion. Toutes les premières fois, pour les parents, sont de grands moments de bonheur. Pourtant, le bonheur, la notion la plus subjective qu'il puisse exister chez les êtres humains sur Terre, n'est jamais acquis. Et abandonne souvent ceux qui se croient assez chanceux pour en profiter toujours. Ah, ils auraient dû se méfier des époux Pollock. Même par une belle journée de printemps auréolée par le chant des mésanges et des étourneaux dans les arbres, même un dimanche matin avant le fils, le malheur, flanqué de ces deux sacoches pleines de désillusions, est en mesure de venir frapper à votre porte. D'ailleurs, Florence, d'un coup, ressent comme un courant d'air froid et inhabituel qui se loge derrière sa nuque et la fait frissonner. La faucheuse, elle, tranquillement, s'est installée à la table de la cuisine. Elle termine le verre de lait du petit Anthony et se délecte des derniers pancakes de John avec gourmandise. Elle est venue chercher son dû. Les petits sont en train de courir vers le Seigneur qui, cette fois, risque de ne pas pouvoir envelopper les 3 enfants de sa miséricorde. Le bonheur doit se vivre discrètement, au risque d'attirer vers soi les plus grandes catastrophes. Mais pour le moment, alors qu'au loin les cloches de l'église sonnent les 10 heures du matin, nos 3 joyeux lurons continuent de courir le long des trottoirs. Ils passent entre les hommes qui, vêtus de 3 pièces, regardent le manège des 3 louveteaux avec tendresse. Jacqueline, Johanna et Anthony volent aussi dans les robes et les manteaux de ces dames qui, elles, bien souvent, leur crient de faire attention. Trois petits jeunes tout seuls en train de courir sur les trottoirs. Voilà que la fin de la rue principale de la vieille ville est proche. Anthony, les mollets en feu, réfléchit au chemin le plus court. Hop, à droite toute. Il remonte la rue et aperçoit soudain au loin le clocher qui brille de mille feux ce matin, baigné des rayons de son ami le soleil. Les cloches sonnent une deuxième fois à 10h01, comme pour rappeler à leurs ouailles la nécessité de venir à la messe. Déjà, la tradition se perd et l'athéisme prend dans le cœur des habitants une place de plus en plus importante. Et ça, les jeunes enfants sur ce trottoir l'ignorent. Ils ne se rendent pour le moment à l'église que sous l'impulsion de leurs parents. Croire en Dieu à cet âge, c'est encore particulièrement abstrait. Anthony s'est mis à croire en Jésus et à l'ensemble de ce culte. Sa mère lui a expliqué que son petit lapin, Jackie, est monté au ciel lorsque le chat du voisin l'avait attrapé et égorgé. C'était plus rassurant, en somme, de se dire que mourir n'est qu'une étape vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Au fond, mourir, c'était comme une piqûre, lui a dit son père. C'est désagréable, mais ça passe vite. Et après, hop, le ciel, ses trésors, ses retrouvailles. Revoir Jackie et ses proches disparus aussi. Mais attention, comme souvent avec la religion, il y a un mais. Pour gagner le droit d'accéder au ciel, il ne faut pas être considéré comme une vilaine personne. Il faut absolument aller à l'église et être sage durant les messes, écouter le Père Oscar et ne jamais l'interrompre. Sans oublier le fait d'avoir aussi de bons résultats à l'école. Sur ce dernier point, le petit garçon a quand même de sérieux doutes. Il soupçonne ses parents d'un excès de zèle pour le forcer à bosser. Peut-être bien qu'il a raison. Il ne lui reste que quelques ruelles à contourner. Tourner à gauche, deux fois à droite, et ce sera le parvis de l'église. Le père Oscar va ronchonner. Ils sont très légèrement en retard. Derrière Anthony, les deux sœurs Pollock, elles, sont essoufflées. Surtout la pauvre petite Jacqueline, qui, du haut de ses 6 ans, tente de faire bonne figure, mais a vite perdu en énergie. Elle a l'impression d'avoir les poumons en feu. Mais elle tient bon. Il faut faire comme les grands. Voilà que la joyeuse troupe passe devant l'épicerie de M. Parker, un fournisseur du papa des filles. Il les a entendus arriver et il sort devant sa boutique à leur passage. Il les appelle, la petite bande se retourne et il leur offre des caramels au beurre salé. Anthony est un petit garçon pressé, certes, mais il est aussi et surtout un gourmand. Demi-tour pour le convoi qui repart avec des douceurs plein les poches. Monsieur Parker les salue de loin, sans perdre l'occasion de rappeler aux filles que son père a toujours une facture à payer. Ce qu'elles ne comprennent pas, bien entendu. Anthony va tellement vite qu'il dépasse la rue qu'il devait prendre. Instinctivement, il traverse sur le premier passage piéton qu'il voit. Les enfants sont à 50 mètres de Monsieur Parker, qui est encore devant sa devanture. Ils ont traversé sans regarder. Ils n'ont pas vu la voiture qui arrivait et qui, de toute manière, n'a même pas freiné. Un bruit strident, trois voix qui s'élèvent dans un même cri et puis le silence, assourdissant. Les oiseaux ne chantent plus. Le clocher ne sonne plus. Seuls résonnent les pas précipités de M. Parker sur le trottoir. Mais c'est trop tard. Les trois enfants sont morts. Marie Higgins s'est levée ce matin-là avec des idées noires. C'est habituel depuis quelque temps déjà. Son mari l'a quittée il y a quelques mois. Il est parti avec sa secrétaire, le coup classique. Une petite jeune pin-up née en 1935. 22 ans de beauté fatale, brune, les yeux qui brillent, et ce bon vieux Antonio avait flanché. Certainement, le sang rital qui coule dans ses foutues veines. La voilà en tous les cas sur le carreau, la trop gentille Marie. Elle a craqué, totalement. La dépression est une vilaine amie lorsqu'on s'habitue trop à sa présence. Sournoise, elle peut tout vous prendre. Votre vie, votre entrain, la manière dont vous aimez vous habiller, vous coiffer, tout. Vous n'avez plus aucune certitude lorsque, sur le palier de votre porte, se tient cette grande dame en robe noire accrochée à votre sonnette. Non, son arrivée annonce bien souvent la catastrophe. Marie, elle, a su tout de suite qu'elle ne pourrait pas tenir bien longtemps face à cette pression mentale qui lui aplatissait le cerveau. Elle n'en a pas la force. Peut-être même qu'elle n'en a plus l'envie non plus. Quand on construit tout avec quelqu'un, voir tout s'arrêter net et regarder le château de cartes s'effondrer derrière les faux-semblants, c'est un coup raide qui peut vous rendre amer, assurément. Une fois, par hasard, elle a croisé le couple dans un supermarché de la ville. Comme portée par une envie irrépressible, elle n'a pu s'empêcher d'interpeller la nouvelle conquête de son mari, l'insultant copieusement devant tout le monde. Résultat, c'est elle qui est passée pour une folle, en plus du reste. Un petit tour au commissariat plus tard et sa réputation était faite. D'une femme particulièrement respectable, elle était devenue aux yeux de son voisinage une infréquentable personne violente, presque une sorcière. Son médecin lui a prescrit des médicaments pour tenir. Un, puis deux, puis ce fut l'engrenage. La pauvre Marie ne voyait plus le jour. On lui a alors proposé une place en institut qu'elle a refusée. Impossible pour elle de quitter sa maison. Et ses souvenirs, trop ancrés, accrochés à elle comme des sangsues qui pompent son énergie et affaiblissent la femme qu'elle est. Comment se sortir de là une fois que la machine est en marche et vous emmène sur le mauvais chemin? Elle n'avait pas la réponse. Impossible de démêler les nœuds qui se font et se défont dans son esprit. Et le pire dans tout ça, c'est que depuis l'incartade au supermarché, son ex-mari lui faisait des misères. Hier, elle a reçu même une citation à comparaître. Elle, la femme bafouée, serait condamnée. On aurait tout vu dans ce monde de fous. Enfin, il faudra bien qu'elle y aille. Elle devra prendre un avocat et creuser ses dettes encore un peu plus. Le cercle vicieux, assurément, est en train de l'aspirer vers le fond. Son réveil est donc bien différent de celui des Pollock. Bien moins enjoué. Pourtant, pour elle aussi, le soleil brille dehors et les oiseaux chantent, mais non, rien n'y fait. C'est la noirceur de son esprit qui l'emporte sur tout le reste. Elle est totalement désespérée. Elle envisage le pire, déjà depuis quelques semaines. Mais elle doit tenir, encore un peu. Ce matin, jour de messe, elle va aller rendre visite à une bonne amie, alcoolique, comme elle. Depuis longtemps, elle ne croit plus aux bienfaits de l'Église. Y aller ne rime à rien. La religion, c'est un fléau, un porteur de faux espoirs, qui vend de la poudre aux yeux et du bonheur artificiel. En se levant ce matin-là, tenant à la main sa tasse de café qui lui permet de démarrer sa journée dans une noirceur plus grise que noire, elle avale son lot d'antidépresseurs habituels. Mais elle ne dose pas. Elle en prend. Elle en prend beaucoup, beaucoup trop. Une véritable tentative de suicide non calculée. Mais son corps, habitué au pire mélange, tient le choc. Marie est juste dans un autre monde, tellement chaos et déconnecté. Elle s'habille à la hâte, enfile les chaussures qui ne sont pas les mêmes à gauche et à droite et, en titubant sur le trottoir, monte dans sa voiture, sans fermer la porte de sa maison. Il est 9h55. La trentenaire habite à quelques minutes du centre d'examen, sa destination. Elle démarre sa Mercedes, le dernier souvenir laissé par son cher mari, et s'engage sur la chaussée, sans regarder. Elle manque de se faire percuter par un de ces jolis taxis noirs qui font le charme de l'Angleterre. Coup de klaxon tonitruant. Le bedonnant conducteur professionnel lui témoigne son mécontentement. Mais Marie n'entend rien et ne voit qu'une infime partie de la réalité. Elle est transportée dans un autre monde. À la radio, les notes des Flamingos, un groupe de Chicago, résonnent dans une tonalité très différente. La femme au volant est totalement perdue. Passe le long de la rue principale de la ville alors même que les Pollock, père et mère, viennent de rentrer dans leur maison. Elle tourne à droite, puis à gauche, va lentement, accélère, puis ralentit de nouveau. Pas de policier sur la voie publique ce jour. On est dimanche. Prise d'un coup de chaud, Marie ouvre sa fenêtre machinalement. On dirait un robot. Elle sait où elle va, ça oui, mais elle ignore totalement la manière d'y arriver. Voilà qu'elle longe maintenant le commerce de M. Parker, qui vient de donner les caramels aux enfants et qui les regarde s'éloigner encore. Elle, Marie, ne voit plus rien. ne ralentit même pas, lancé à 50 km/h quand les enfants traversent la route devant sa voiture. Le premier de la file, Anthony, est percuté au niveau de l'épaule et de la nuque par le phare avant gauche. Sa tête s'écrase sur le trottoir. Marie ne tente de s'arrêter que lorsqu'elle sent qu'elle a roulé sur quelque chose. Elle n'y parvient pas et perd le contrôle de sa voiture qui s'encastre dans un poteau un peu plus loin. L'histoire ne dit pas si elle aussi est morte ou si elle a survécu. Elle vient en tout cas de rouler sur les petites sœurs Pollock. Les roues gauches pour Johanna, les droites pour Jacqueline. Les petites meurent sur le coup. Elle ne leur a laissé aucune chance. Anthony, lui, rend son dernier souffle dans les bras de l'épicier, venu à leur secours. Et sur le perron de son église, le père Oscar, lui, qui n'a rien vu, rien entendu, ronchonne car les petits sont en retard. Il n'est pas encore au courant, comme tous les autres, de la sentence divine qui vient de frapper ses âmes innocentes.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se consacre à une histoire qui commence de la manière la plus sordide possible. Trois enfants viennent de se faire faucher en plein centre-ville par une femme sous l'emprise d'un cocktail de médicaments. C'est un horrible fait divers qui s'abat sur toute la communauté de Hexham, petite ville du nord de l'Angleterre. Deux sœurs font partie des victimes et leurs parents se retrouvent complètement démunis face à l'un des pires malheurs que peut apporter la vie. C'est là que notre histoire va prendre une tournure des plus particulières. John Pollock, leur père, qui se réfugie dans la religion pour surmonter cette épreuve, va faire un rêve très spécial, qui va pourtant se réaliser. Nous sommes le 19 mai 1957. Il est 3h du matin et depuis quelques heures, c'est dimanche. Le pire jour de la semaine pour John Pollock qui vient de perdre ses deux filles dans un accident de voiture. Il y a de cela deux semaines. Entre la culpabilité de les avoir laissées partir seules et l'horrible douleur qui l'assaille, son corps et son esprit sont en bouillie. La nuit noire de printemps est au dehors agréable. Dans sa chambre, cependant, depuis 2 heures, c'est l'horreur absolue. Depuis le drame, John est victime de terreurs nocturnes qui s'accompagnent de visions terrifiantes. Couché dans son lit, sa femme dormant à côté, il ne peut rien faire. Il est éveillé, oui, mais totalement paralysé. Seuls ses yeux bougent et dans le noir, les ombres s'avancent. Couché sur ses genoux, un chien, peut-être est-ce un loup, grogne. La mâchoire ouverte, les dents en avant, prêt à lui sauter à la gorge. John sait pourtant que cet animal n'existe pas, c'est évident, mais vous pouvez le croire, la nuit, quand il vient lui rendre visite et qu'il saute sur son lit, il n'y a rien de plus réel. Il ne peut pas appeler à l'aide. Il ne peut même pas attraper la main de sa femme qui est juste là, à côté de lui. Un poids sur la poitrine, une respiration courte, haletante, soumis à la terreur, John devient une proie. Les dents de la bête luisent à la lumière de la lune. Et il y a pire que ça, c'est que maintenant, en journée aussi parfois, il l'aperçoit. La bête se cache derrière un buisson, semble attendre le meilleur moment, prête à se saisir de lui et à l'emporter en enfer. Alors, faire bonne figure, ça, oui, ça, il sait faire. Mais son échine se hérisse de peur, au moins une fois par jour, alors que le soleil est bien levé. Que faire, alors? John ne peut contrôler ses pensées. Tout ça est plus fort que lui. C'est une vague, que dis-je, un tsunami qu'il prend chaque fois que ses yeux se ferment une fois la nuit venue. Et rien n'y fait. Aucune solution ne permet de le sauver. Dormir sur le côté? La bête arrive toujours à ses fins. Prendre des somnifères? Il se réveille toujours au même moment crucial. Au moment où la nuit est la plus noire. Non, il doit subir, parfois durant des heures, ce phénomène horrible qui le détache de la réalité des mortels. Puisqu'il croit en Dieu, il tente de régler le problème en priant, toute la nuit parfois. Mais il ne peut fermer les yeux. Au moindre clignement, le chien rapproche sa mâchoire et ses dents acérées. Il ne doit montrer aucun relâchement, aucune baisse de vigilance. John pense constamment à ses filles dans ces moments délicats et il pleure beaucoup. Rien n'y fait. L'animal ne part pas, ne bouge pas d'un pouce. Il reste à la merci de ses deux yeux jaunes en fer dans lesquels il est happé, appelé. Oh, il voudrait se lever, jeter sa jambe en l'air pour faire fuir la bête, mais rien n'y fait. Ce Black Dog, comme il appelle autant ses terreurs nocturnes que sa dépression, est devenu en l'espace de quelques semaines son plus fidèle compagnon. Lorsque le chien finit par s'en aller, enfin, John peut dormir quelques heures. Souvent, au petit matin, au moment où sa femme, elle, se réveille et replonge dans l'horreur quotidienne qui est la leur depuis quelques semaines. Ils ont quatre fils qui, tous, et c'est bien normal, ont aussi besoin d'eux. Mais lorsque John plonge trois, peut-être quatre heures dans un sommeil profond, il a des visions. Il ne peut expliquer comment, mais la tragédie en lui a dévoilé quelque chose de nouveau, une sensibilité accrue, nourrie par le malheur. La rage, la tristesse, le sentiment d'injustice sont devenus pour lui un moteur, une canne sur laquelle s'appuyer et marcher. Il oscille constamment entre hystérie et abattement. Ce matin, alors qu'il se réveille aux aurores, il est sans doute un peu plus de 6 heures, John est saisi de ce rêve dont il se souvient. Il a eu une vision. Ses filles, mortes depuis 15 jours, vont revenir, sous la forme de jumelles. Sa femme va tomber enceinte et de nouveau, Jacqueline et Johanna seront avec eux. Il en a la plus intense certitude. Le dimanche matin, plus de pancakes, plus de verre de lait non plus. Juste une embrassade timide qui les raccroche à la vie. Mais lorsqu'il raconte sa vision à sa femme pour la première fois, Florence se fâche. S'ensuit une forte dispute. La première de leur vie commune. Elles vont être nombreuses dans les prochains mois. Avant la mort des filles, John ne croyait pas en la réincarnation. C'était d'ailleurs une de leurs différences. Et maintenant, voilà qu'il vient vendre à sa femme un espoir de voir les petites revenir. Alors non. Non. Ça, vraiment, c'est dégoûtant. Florence ne peut le tolérer. John, pourtant, se sait sincère. Il ne peut l'expliquer rationnellement, mais il le sait. Ses filles chéries, un jour, seront là de nouveau. Nous sommes le 4 octobre 1958. L'accident a eu lieu depuis plus d'un an. Et bonne nouvelle. Florence est enceinte. Depuis 9 mois, sur le trajet de la maternité, il y a quelques heures, elle a avoué à John tout le bien qu'elle pensait de lui et de sa capacité à avoir vu que le bonheur allait revenir. Il a eu raison pour le moment, sur toute la ligne. Les examens, sommaires à l'époque, ont révélé que Florence attendait des jumelles. À cette annonce, John était tombé dans les pommes, comme une fleur qu'on cueille un matin de printemps. Ses terreurs nocturnes à lui sont toujours là. Elles ne le quitteront plus jamais, mais il a appris à vivre avec, à les apprivoiser. Maintenant, la bête sur ses genoux ne grogne plus. Elle le regarde simplement. Elle part parfois un peu plus tôt, le laisse voir ce qu'elle veut bien lui montrer. Le 4 octobre 1958, pourtant, est une date fondatrice dans la vie et le futur de la famille Pollock. En quelques minutes, sans douleur pour Florence, naît Gillian d'abord, puis Jennifer qui arrive en second. Rapidement, des coïncidences troublantes viennent frapper John en plein visage. Alors qu'il fume à la fenêtre ouverte de la chambre de la maternité, l'homme d'affaires dénoue une cravate que l'émotion rend insupportable. Il regarde sa femme qui porte la petite Jennifer dans ses bras. Il remarque, d'un coup d'un seul, la tache de naissance sur son front, pile au même endroit que la cicatrice portée par Jacqueline. Intrigué, il jette sa cigarette qui vient mourir sur un rebord de fenêtre en contrebas et prend délicatement sa fille sur lui. Jacqueline, petite fille, avait été victime d'un grave accident de balançoire et s'en était tirée avec une cicatrice sur le front et une autre à la taille. Et ce petit être potelé entre ses mains, contrairement à sa sœur jumelle qui n'en a pas, porte, je vous le donne en mille, 2 taches de naissance. Une au front, une autre à la taille. Bon, certainement comme vous en ce moment, le père de famille et sa femme se disent que ce n'est qu'un hasard. Vivre dans la maison dans laquelle leurs deux autres filles ont grandi devient vite une épreuve insurmontable pour tout le monde. Exam leur rappelle sans cesse les malheureux événements passés. Alors pour le bien de sa famille, John décide de déménager ses activités. Toute la petite famille part s'installer à White Bay, dans une grande maison spacieuse, tout près du bord de la mer. Florence s'y ressource avec beaucoup de bonheur et tous les enfants s'y sentent bien. Les deux petites, elles, grandissent dans un environnement serein, porteur d'un nouveau souffle. Et puis, du curieux naît le bizarre. Des coïncidences naît l'inexplicable. Alors que les fillettes ont 2 ans, elles commencent à réclamer à leurs parents des jouets dont elles ne connaissent même pas l'existence. Le langage des enfants à cet âge est particulièrement simple. Dans le cas présent, elles évoquent, avec leur capacité, les instruments de jeu de leur grande sœur décédée dans l'accident. Longtemps, les parents sont restés sourds à cette demande plus que bizarre et inexplicable. Même John, qui a vécu avec la conviction que ses filles reviendraient dans le corps des jumelles, se retrouve particulièrement désarmé. Alors, après une mûre discussion sur le sujet, un soir d'été, lui et Florence décident d'aller chercher dans le grenier de la nouvelle maison 2 des poupées préférées des petites filles décédées. Quand John entre dans la pièce obscurcie, des toiles d'araignée s'enroulent sur son visage. Rien que le fait d'ouvrir ce petit coffre le renvoie à l'horreur d'un passé encore proche. Mais, poussé par une appréhension mélangée à une curiosité presque malsaine, il décide d'offrir à ses 2 plus jeunes filles 2 poupées ayant appartenu à leurs aînés. Et pour les Pollock, c'est le choc. Instinctivement, les fillettes décident de nommer leurs jouets Marie et Suzanne. Les mêmes noms que leur avaient donné les petites percutées par la voiture. Abasourdis par cette coïncidence qui n'en est plus une, les Pollock vont porter à leurs 2 enfants encore plus d'attention et ils vont relever d'autres signes, nombreux, perturbants et dérangeants. Bientôt, Gillian, pourtant du même âge que sa sœur, prend une posture d'aînée et Jennifer suit le mouvement sans rien dire. Les fillettes parlent de souvenirs qu'elles n'ont jamais vécus. Les années passant, elles réclament de pouvoir retourner dans leur ville natale. John et Florence se décident à accepter, afin peut-être de comprendre ce qui les anime. Événement extraordinaire. Lorsqu'elles arrivent aux abords de la bourgade, les jumelles s'emballent et parlent à l'unisson d'un parc d'attractions de la région. Elles n'y sont jamais allées. Mieux encore, elles le décrivent avec une précision folle, parlant de leurs manèges préférés, les mêmes que ceux de leurs aînés. Et puis, la famille retourne dans son quartier d'origine. Les fillettes, âgées de 4 ans, reconnaissent d'elles-mêmes leur maison et vont saluer les parents d'Anthony, les reconnaissant comme leurs voisins. Elles évoquent aussi le souvenir de voisins qui ne sont pourtant pas sortis de leur maison. Elles parlent de la même manière que leur sœur aînée, racontent les mêmes anecdotes. Le voisinage pense même à une mauvaise blague, que les parents sont devenus fous et ont élevé les petites dans la dévotion de leurs aînés décédés. Pour John et Florence, c'est la démonstration de trop. Il faut parler de cette affaire à des médecins. Les petites doivent être examinées.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache se penche sur une affaire des plus particulières, celle des sœurs Pollock. Les jeunes filles nées 1 an et demi après la mort accidentelle de leurs aînés se retrouvent bizarrement à évoquer des souvenirs qui se sont déroulés avant leur naissance ou à renommer des jouets de la même manière que leur sœur décédée. La succession de coïncidences est telle que les parents des jeunes filles décident de les faire examiner par un spécialiste de la question. Une réincarnation est-elle possible ? Le docteur Stevenson, qui se penche sur leur cas, a en tous les cas la charge de répondre à cette question pour le moins épineuse. Nous sommes au cœur de l'automne 1962. Le docteur Stevenson est venu de Londres pour étudier le cas des jumelles Pollock. L'homme, élégant, grand, impressionnant, dans un costume nickel, est un psychologue de renom. Né en 1918, il s'est spécialisé dans les phénomènes de réincarnation d'enfants. Avec un magnétophone, il enregistre les paroles des deux sœurs en présence de leurs parents. Au détour d'une question tout à fait différente, il demande à Jennifer si elle se souvient de l'accident ayant eu lieu en 1957. En effet, depuis quelques semaines, les fillettes se mettent à hurler au passage des voitures. Dans la rue, très régulièrement, Gillian s'exclame « La voiture vient pour moi !» Bien souvent, elle refuse de sortir sans la présence d'un adulte à leur côté et se cramponne aux jambes de ce dernier chaque fois que se fait entendre un bruit de moteur. La situation devient invivable. À l'énoncé de la question, le visage de Jennifer se transforme. Elle prend un air grave et prononce ces quelques mots. « Je ne veux pas que cela m'arrive à nouveau. C'était horrible. Mes mains étaient pleines de sang, tout comme mon nez et ma bouche. Je ne pouvais pas respirer. » Premier choc pour tout le monde dans l'assistance. Mais cela ne s'arrête pas là. Aussitôt après, Gillian répond à sa sœur. « Ne me le rappelle pas. Tu ressemblais à un monstre et quelque chose de rouge est sorti de ta tête. » Fin d'échange. Totalement délirant. Le docteur Stevenson se cramponne à son fauteuil et sa main droite est prise de tremblement. Il écrira un livre sorti en 1987 sur sa quête de témoignages de ce genre et dans le cas des jumelles. Il statue bien sûr sur le fait que ce cas, typiquement, pouvait être interprété comme une réincarnation. Et puis, un jour, les jumelles ont eu 5 ans. Dans de nombreuses cultures, qu'elles soient occidentales, asiatiques ou amérindiennes, on croit à la réincarnation des âmes. De nombreux croyants à travers le monde ne sont donc pas étonnés de l'histoire, aussi folle soit-elle, des sœurs Pollock. Et l'âge de 5 ans, dans de nombreuses croyances, apparaît être un passage, une sorte de pont entre les vies antérieures et celles à venir. Dans le cas des jumelles Pollock, c'est particulièrement éloquent. Les fillettes, très vite après leur 5e anniversaire, perdent peu à peu les souvenirs antérieurs. D'abord Jennifer, puis Gillian. Enfin, les filles peuvent commencer leur propre vie, comme si, de manière totalement inexplicable, leur existence n'était plus liée à celle de leur sœur tragiquement décédée. John et Florence en ont été soulagés. Cela leur a permis à eux aussi de faire enfin un deuil bien nécessaire. La bête n'a jamais quitté les genoux de John dans son sommeil, même si, à la fin de sa vie, c'est presque comme si elle venait s'endormir près de lui, comme soulagée, elle aussi. 6 décennies plus tard, leur lien avec leur sœur aînée semble définitivement rompu, à l'exception d'un événement, rapporté dans un article du Mirror il y a quelques années. En 1981, alors que Gillian est âgée de 23 ans, elle consulte un psychologue en mentionnant le fait d'avoir été victime d'une vision nocturne, celle de jouer dans un bac à sable à Wickham. Elle apporte des précisions sur son environnement et sur ce qu'elle a pu y voir. Vous voyez pas le problème ? Eh bien, elle n'avait jamais mis les pieds dans cette ville. Au contraire de la famille Pollock qui, du temps où Johanna était petite, avant la naissance de sa petite sœur, y avait vécu quelque temps. Alors, réincarnation ou simple coïncidence ? Je vous laisse mettre de la conclusion que vous ferez en la matière. Et je vous propose de nous quitter aujourd'hui avec une citation attribuée au philosophe antique Plotin. Croyant en la réincarnation, celui-ci en écrit l'une des expressions les plus connues. Mourir, c'est changer de corps, comme les acteurs changent d'habit. Et vous ? Vous, qu'en pensez-vous ? Voilà donc pour ce récit que j'ai eu la chance de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.